Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Sierra Leone, les députés ont voté une loi réservant aux femmes un tiers des sièges à l'Assemblée nationale. Le 15 novembre 2022, ils ont adopté à l'unanimité ce texte qui prévoit aussi qu'un conseiller local sur trois soit une femme. La ministre du Genre et de l'Enfance, Manti Tarawali, s'est déclarée très satisfaite après l'adoption de cette loi. Une promesse du président Julius Mada Bio lors de la campagne présidentielle de 2018. La députée d'opposition, Rougui Atou Rosikanou, a souligné que hommes et femmes devaient travailler ensemble pour construire une société meilleure. Le député du parti au pouvoir, Ibrahim Tawa Konté, a précisé qu'il y avait seulement 19 femmes sur 146 députés. En Italie, les femmes députées peuvent allaiter leur enfant en séance depuis le 15 novembre 2022. Elles peuvent s'installer au dernier rang supérieur de l'Assemblée ou dans une tribune réservée, alors qu'auparavant, elles devaient s'isoler dans une pièce. L'allaitement est autorisé jusqu'au premier anniversaire du bébé. Le mouvement 5 étoiles qui a initié la réforme a fait élire à la Chambre en 2018 de nombreuses jeunes mères issues de la société civile et milite pour permettre aux femmes de mieux conjuguer vie professionnelle et familiale. L'ex-députée d'extrême droite Giorgia Meloni, qui est première ministre depuis fin octobre, avait proposé une telle mesure en 2019. La présidente du groupe Forza Italia au Sénat, Licia Ronzulli, s'est félicitée de la mesure. Jeune eurodéputée, elle allaitait son bébé au Parlement de Strasbourg où c'est autorisé. En Espagne, depuis l'adoption d'une nouvelle loi contre les violences sexuelles, certains condamnés voient paradoxalement leur peine réduite ou sortent de prison. Dans ce pays européen, les peines sont modifiées rétroactivement si une révision du code pénal bénéficie aux condamnés. La loi du 7 octobre a durci l'arsenal contre le viol tout en abaissant les peines pour d'autres violences sexuelles. Des centaines de condamnés ont ainsi déposé des demandes en révision. Un homme ayant agressé sexuellement sa belle-fille mineure a vu sa peine réduite et un professeur qui a eu des relations sexuelles avec des mineurs en échange d'argent est sorti de prison. Selon des juristes, le problème vient du fait que la peine plancher a été machinalement abaissée vu que toutes les violences sexuelles sont désormais qualifiées d'agression. La distinction entre abus et agression était au cœur de l'affaire du viol d'une jeune femme par 5 hommes en 2016. Leur condamnation pour abus sexuels et non pour viol avait fait descendre des dizaines de milliers de femmes dans la rue. La Cour suprême avait finalement requalifié les faits en viol et aggravé leur peine à 15 ans de prison.
Parole de femme.
Thank you. Dans le monde, plus de 76 millions de femmes et filles sont travailleuses domestiques. Elles fournissent des services essentiels aux ménages, mais travaillent pour la plupart dans des situations de vulnérabilité. Suivons ce reportage d'Abdoul Razak Idrissa à Niamey qui aborde le cas des filles et femmes nigériennes pratiquant cette activité pénible, parfois jusqu'à 12 heures par jour pour un salaire de misère.
Chaque mois, c'est 15 000 francs qu'on me paye. Je travaille chaque jour de 7 heures à 19 heures parfois. Souvent, on te fait faire des tâches qui ne sont pas prévues. Ou lorsque tu fais une tâche, on te dit que ce n'est pas bien fait.
Ces propos de Khadija, jeune fille d'une quinzaine d'années qui vient de se lancer dans l'activité, résument le vécu de la majorité des travailleuses domestiques nigériennes, celles de Niamey, la capitale notamment. Pas bien payées, souvent brimées, insultées ou injuriées, même chez les plus expérimentées, plaintes et complaintes sont les maîtres mots lorsqu'elles parlent de leur situation.
Notre travail n'est pas facile. Il n'est pas bien payé. Cela fait 2 ans que je le pratique. Le plus grand salaire que j'ai eu, c'est 20 000 francs CFA. Certains patrons ne payent même pas cela à temps. Ou ils peuvent te le donner pas dans son intégralité. Les abus, insultes et autres formes de brimade sont notre quotidien. Et nous n'avons malheureusement pas beaucoup de choix que de les subir. Vous savez, moi je viens de très loin et je dois travailler pour aider mes parents.
Face à la persistance de la situation, des initiatives sont nées pour faire bouger les lignes. Madame Zainabou Moussakaka est responsable d'une ONG locale qui a expérimenté un projet d'autonomisation et de protection des travailleuses domestiques.
Nous avons essayé à travers les médias d'organiser des débats sur la protection juridique des travailleuses domestiques. Que dit la loi au Niger ? Peut-être avec les séances de sensibilisation, nous avons espéré toucher la mentalité et la conscience des uns et des autres pour qu'on puisse rehausser le salaire de ces dernières. Nous avons prévu de faire une session de plaidoyer au niveau de la commission sociale de l'Assemblée nationale pour qu'ils aient un œil sur ce secteur. Hélas, Covid est intervenu, le projet n'a pas pu voir sa fin. On espère qu'on va revenir sur ce même projet au vu de l'importance de la thématique.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti au Niger, c'est un peu plus de 30 000 francs CFA. Cette catégorie de travailleurs n'en ont pas la moitié. Pour la plupart d'entre eux, les abus et autres violations de leurs droits sont assimilables à l'exploitation et à la traite de personnes selon la législation nationale. C'est connu, mais personne ou presque n'agit pour y mettre fin. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
De nombreuses jeunes femmes originaires de pays d'Afrique subsaharienne travaillent comme domestiques au Maroc. Certaines d'entre elles racontent ce qu'elles endurent au micro de notre correspondant Eliman Semben à Casablanca.
Quand la dame, elle m'a acheté le billet, donc elle m'a cherché à l'aéroport. Dès que je pousse mes pieds à l'aéroport, directement, elle a pris mon passeport. Tu travailles très dur, tu te réveilles le matin, tu te réveilles à 7 heures, tu travailles jusqu'à 20 heures. Hein.
Lucie n'est pas un cas isolé. Elles sont nombreuses, les femmes domestiques subsahariennes qui vivent le calvaire au Maroc. Travail pénible, horaires prolongés, racisme, autant de traitements dégradants subis. Amina a 28 ans. Elle travaille actuellement dans un centre d'appel à Casablanca. Elle se souvient encore de son amère expérience chez son ancienne patronne.
La dame était tellement méchante. Là où je dormais, c'était au sous-sol. Moi, j'avais peur. Je n'éteignais pas la lampe, je l'allumais. Pour manger, la dame me donnait... Tu connais un petit morceau de poulet. Elle le coupe en quatre parties, avec des pâtes et l'oignon. Quand je repasse les habits de son mari, elle me dit de ne pas me rapprocher des habits, sinon parce que moi, je suis sale.
Si certaines viennent dans le royaume de leur propre gré, d'autres y accèdent via des contrats que leurs employeurs signent avec des intermédiaires. Un document dont elles ignorent les clauses. Frank Iyanga, secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés affiliée au syndicat marocain ODT, confirme.
La majorité de ces femmes-là ne viennent pas normalement comme il se doit. Donc il y a des réseaux, des trafiquants qui les envoient au Maroc. En 2015, moi j'avais écrit une lettre pour solliciter le démantèlement de ces réseaux-là.
Pour améliorer les conditions de travail des femmes de ménage, le Maroc a promulgué une loi entrée en vigueur depuis 2020. Contrat de travail, déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale, salaire en fonction du SMIC, congé annuel, autant d'avantages. Mais pour beaucoup de patrons, pas question de les respecter. Pas de punition à craindre.
Il y a des employeurs qui font n'importe quoi. Quand on les interpelle, ils ne viennent pas donc, et ils ne sont pas punis parce qu'ils ont beaucoup d'argent.
Binta, une nounou sénégalaise engagée par un couple français depuis 6 ans, semble être une exception. Sa situation contraste avec celle des autres.
Et je me sens bien, je suis bien avec eux, je suis bien traitée. On dirait que c'est ma deuxième famille. Je me sens bien à l'aise. J'ai mon contrat de travail, j'ai ma CNSS, j'ai tous les papiers qu'il faut. Et j'ai mes congés annuels. Je ne travaille pas les week-ends pour gérer ma carte de séjour marocaine. Un bon salaire, je ne me plains pas.
Un idéal que souhaite vivre la majorité des femmes domestiques. Elimane Semben, Casablanca, VOA Afrique.
Si jeunesse pouvait.
Le système éducatif est précaire dans certaines régions du sud du Tchad par manque d'infrastructures scolaires et de personnel enseignant qualifié. Les communautés se tournent ainsi vers les partenaires au développement pour donner une chance à leurs enfants. C'est le cas de la sous-préfecture de Donia, dans la province du Logone oriental. Notre correspondant André Kodmadjingar s'est rendu dans cette localité.
Nous sommes dans un jardin d'enfants communautaire à Donia, dont la population est estimée à plus de 26 000 habitants. Le pétrole y jaillit depuis 2003, mais la localité manque des structures d'encadrement des enfants. Ici, une soixantaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans sont assis sur des nattes et regardent le tableau noir cloué à un tronc d'arbre dont l'ombre sert de salle de classe mixte. Dans un environnement peu enviable, 4 monitrices formées par l'UNICEF tentent d'assurer leur éducation, comme en témoigne Tari Makoum, monitrice principale.
Les enfants, quand ils pleurent, on dit certains mots pour les consoler. On commence par les mettre en rang. Dans notre jargon, on dit mise en train. Mise en train, là, il y a des petites chansons pour les enfants. Ils récitent leur poésie, tout ça. Pour le moment, la grande session, c'est 70 et la petite session, avec la moyenne session ensemble, c'est 74.
Le président du comité de gestion de cet établissement communautaire, Taroum Kamis, explique les raisons qui ont motivé la communauté à créer ce centre préscolaire dans la localité.
Donia, dans le département de Niapende, c'est le canton et sous-préfecture le plus peuplé. Nous avons ici également le site pétrolier de Badjila. Avec les travailleurs qui viennent, ils sont nombreux, qui viennent avec leurs familles et leurs enfants. Et vous savez, ici, les infrastructures scolaires posent véritablement problème. À l'école officielle de Wolo, par exemple, au CP1, tu vas trouver 200 élèves. Ça, c'est pour quel encadrement? Donc, nous voulons également cadrer en perspective un peu à peu ces enfants-là.
Taroum Kamis, président du comité de gestion, revient sur les difficultés rencontrées depuis la création de ce cadre de formation.
Nous avons vraiment le problème d'eau. On part loin chercher de l'eau potable pour ces enfants. C'est aussi un autre souci. Nous avons fixé la scolarité là pour chaque parent à 11 000 francs. Donc sur les 11 000 francs là, on a leur kit sanitaire. Dedans, vous voyez les papiers hygiéniques, les tableaux, les bancs.
Avec tout ça, nous achetons les matériels didactiques aussi pour les animatrices.
Au micro de VOA Afrique, la spécialiste en éducation de l'UNICEF, Alexis Kassamba, explique pourquoi son institution, à travers le Fonds canadien Education Kennethwaite, finance le préscolaire dans deux provinces du Tchad, à savoir le Logone oriental et le Lac.
Au Logone oriental, nous avons choisi 5 sites, là où il y a beaucoup d'enfants qui sont en âge d'aller au préscolaire, entre autres là où il y a beaucoup de filles. Parce que dans ce projet, c'est aussi briser la barrière qui empêche aux filles d'aller à l'école. Vous allez constater que les enfants, jusqu'à là, sont sous les arbres, dans des conditions très difficiles. Et avec le financement du projet canadien, nous avons construit ces 2 salles de classe pour que les enfants puissent intégrer.
Le même projet de l'UNICEF appuie également l'école communautaire de Kobité, localité située à 8 km de Gorée, chef-lieu du département de la Niapende. Créée en l'an 2000 par la communauté elle-même, cette école accueille aujourd'hui plus de 1000 élèves autochtones et retournés de la République centrafricaine, avec 9 enseignants chargés des cours, dont un seul formant et 8 maîtres communautaires. André Kordoma-Dingar, de retour de Gorée, N'Djamena, pour VOA Afrique.
McCray, and She's All I Wanna Be. Just before that, I'm Larry London. If you want the latest news headlines, check out voanews.com. That is our website. You can also get the new app in the App Store, the VOA News app. It's free. It's a free download. Put it on your phone. You can listen to our live streams. You can check out the news headlines. You can even check out my Border Crossings TV video interviews. If you click Border Crossings, then watch, you can see the TV guests on my show, Border Crossings. So it's all at the VOA News free app. Just download.